Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revenons donc, dans nos lectures en liberté, en ce début de semaine, au récit de Éric Vuillard, L'ordre du jour. Les tout derniers invités finirent par se retirer, et les époux Ribbentrop levèrent le camp. Le chauffeur leur ouvrit la portière. Madame Ribbentrop replia délicatement sa robe, et ils montèrent dans leur voiture. Il y eut alors une franche démonstration de gaieté. Les Ribbentrop rirent du bon tour qu'ils avaient joué à tout le monde. Ils s'étaient évidemment parfaitement rendu compte qu'une fois la note apportée par l'agent du Foreign Office, Chamberlain avait paru préoccupé, affreusement préoccupé. Et bien sûr, ils savaient exactement ce qu'il y avait dans cette note, les Ribbentrop, et ils s'étaient donné pour mission de faire perdre à Chamberlain et au reste de son équipe le plus de temps possible. Ainsi, ils avaient éternisé ce repas, puis le café, puis les discussions dans le salon jusqu'à la limite du raisonnable. Pendant ce temps, Chamberlain n'avait pu parer au plus pressé. Il avait été occupé à causer de tennis et à déguster des macarons. Les Ribbentrop, jouant sur sa trop grande politesse, une politesse presque maladive, puisque même la raison d'État pouvait attendre, l'avait très utilement détourné de son travail. C'est que cette note apportée par l'agent du Foreign Office, et dont le mystère s'étira durant cet interminable repas, contenait une terrible nouvelle. Les troupes allemandes venaient d'entrer en Autriche. Blitzkrieg. Pendant la matinée du 12 mars, les Autrichiens attendirent l'arrivée des nazis fébrilement, dans une allégresse indécente. Sur bien des films du temps, on aperçoit les gens tendre la main devant le comptoir d'un kiosque d'une camionnette de foire, en quête d'un fanion à croix gammée. Partout, on se hausse sur la pointe des pieds. On grimpe aux corniches sur les murets, en haut des lampadaires, n'importe où, pourvu que l'on puisse voir. Mais les Allemands se font attendre. La matinée passa. Puis l'après-midi s'écoula, étrange. Par moments, un grand bruit de moteur couvrait la campagne. Les drapeaux s'agitaient, les sourires fleurissaient sur les visages. « Ils arrivent ! Ils arrivent !» entendait-on hurler de toutes parts. Les yeux exorbités fixaient l'asphalte. Rien. On espérait encore. Et puis on se relâchait, les bras ballants, et au bout d'un quart d'heure, on était de nouveau par terre, accroupi dans l'herbe, discutant. Le 12 au soir, les nazis viennois avaient prévu une retraite au flambeau pour accueillir Adolf Hitler. La cérémonie devait être émouvante et grandiose. On attendit jusqu'à assez tard. Personne ne vint. On ne comprenait pas ce qui se passait. Les hommes buvaient de la bière et chantaient, chantaient. Mais bientôt, on n'eut plus tellement envie de chanter. On était vaguement déçus. Alors, quand trois soldats allemands débarquèrent, arrivés par le train, il y eut un instant de liesse. Des soldats allemands ! Un miracle ! Ils furent les hôtes de toute la ville. Jamais on ne les aima autant que les Viennois cette nuit-là. Vienne ! On leur offrit tous des chocolats, toutes des branches de sapin, toute l'eau du Danube, tous les vents des Carpates, ton ring, ton château de Schönbrunn, ton salon chinois, la chambre de Napoléon, le cadavre du roi de Rome, le sabre des pyramides, tout. Ce n'étaient pourtant que trois petits soldats chargés de s'occuper du cantonnement de l'armée. Mais on était si impatients d'être envahis qu'on les promena dans la ville en les portant en triomphe. Et ils ne comprirent pas bien, ces trois pauvres bougres, l'enthousiasme qu'ils suscitaient. Ils ignoraient qu'on pouvait les aimer autant. Ils eurent même un peu peur. L'amour est parfois effrayant. On commençait pourtant à s'interroger. Où était la machine de guerre allemande, se demandait-on. Que faisaient les tanks, les automitrailleuses? Et toutes ces bêtes fabuleuses qu'on nous avait promis, où étaient-elles? Il ne voulait donc plus de son Autriche natale, le fourreur. Non, non, ce n'était pas ça. Mais une rumeur commençait à courir. On n'osait pas vraiment en parler à haute voix. Il fallait tout de même se méfier des nazis qui écoutaient tout. On racontait, on n'en était pas sûr, mais la situation confirmait tout de même les ragots, qu'après avoir, dans un élan inouï, franchi la frontière, la fabuleuse machine de guerre allemande avait lamentablement calé. En fait, l'armée allemande avait eu le plus grand mal à passer la frontière. Cela s'était fait dans un désordre sans nom, avec une lenteur effarante. Et à présent, elle stationnait près de Linz, à peine 100 kilomètres plus loin. Pourtant, il faisait très beau, paraît-il, ce 12 mars. Il faisait même un temps de rêve. Tout est si bien parti. À 9 heures, on soulève la barrière des douaniers et hop, on se trouve en Autriche. Pas même besoin de violence ou de coups de tonnerre, non. Ici, on est amoureux. On conquiert sans effort, doucement, avec le sourire. Les chars, les camions, l'artillerie lourde, tout le tralala avance lentement vers Vienne pour la grande parade nuptiale. La mariée est consentante. Ce n'est pas un viol, comme on l'a prétendu, c'est une noce. Les Autrichiens s'égosillent, font de leur mieux le salut nazi en signe de bienvenue. Ils s'y entraînent depuis 5 ans. Mais la route vers Linz est difficile. Les véhicules crapotent, les motocyclettes toussent comme des rotobineuses. Ah ! Ils auraient mieux fait d'aller jardiner, les Allemands, de faire un petit tour d'Autriche et puis de revenir à Berlin bien sage et de transformer tout ce matériel en tracteur et de planter des choux dans le parc de Tiergarten. Car aux alentours de Linz, tout se gâte. Le ciel est pourtant immaculé, serein, l'un des plus beaux ciels possibles. L'horoscope du 12 mars fut merveilleux pour les balances, les cancers et les scorpions. Le ciel était en revanche néfaste au reste des hommes. Les démocraties européennes s'opposèrent à l'invasion avec une résignation fascinée. Les Anglais, qui étaient au courant de son imminence, avaient averti Schöschnigg. C'est tout ce qu'ils firent. Les Français, eux, n'avaient pas de gouvernement. La crise ministérielle tombait à point. À Vienne, ce matin du 12 mars, seul un rédacteur en chef, Émile Lobel, fera paraître un article rendant hommage au petit dictateur Schöschnigg, ce qui était un bien minuscule acte de résistance, ce sera presque le seul. Dans la matinée, une clique déboulera au journal et on le forcera brutalement à quitter les lieux. Les SA surgissent dans les bureaux et tabassent les employés, les journalistes, les rédacteurs. Pourtant, ce ne sont pas des gauchistes. Ils n'ont pas soufflé mot lorsque le Parlement s'est dissous dans le néant. Ils ont approuvé sagement le catholicisme autoritaire du nouveau régime. Ils ont accepté les purges des rédactions sous Dollfuss. Et le départ des sociaux-démocrates emprisonnés et interdits de travail ne les a pas trop gênés. Mais l'héroïsme est une chose bizarre, relative. Et en somme, ce matin-là, il est à la fois émouvant et inquiétant de voir Émile Lobel être le seul à se plaindre. À Linz, il n'en fut pas autrement. On y avait procédé à d'horribles purges et la ville était à présent tout à fait nazie. Partout, on chantait, haletant, avec à chaque minute l'espoir de voir arriver le fourreur. On dirait que tout le monde est là, le soleil brille et la bière coule à flot. Puis la matinée passe, on somnole au coin d'un bar et comme rien n'arrête le temps, il est soudain midi, le soleil est à son zénith. Les fontaines se taisent, les familles rentrent déjeuner, le Danube roule ses flots. Au jardin botanique, la fabuleuse collection de cactus est pleine de cotillons. Les araignées les prennent pour des mouches. À Vienne, au comptoir du Grand Café, on murmure que les Allemands ne sont pas encore arrivés à Wels, qu'ils ne seraient peut-être même pas à Meganhofen. Les mauvais esprits ricanent qu'ils se sont trompés de direction, qu'ils roulent vers Suse ou Damiette, qu'on les verra l'an prochain à Bobino. Mais certains évoquent à voix basse une panne, une immense panne d'essence, un gros problème de ravitaillement.
Qu'avions-nous jusqu'à ce jour? De l'or pas un sou, du sol pas un pouce. Notre âge nous livre l'amour, blond trésor et vigne, aux vendanges douces. Mais voici qu'on veut nous voler 3 ans de bonheur, éclos hier à peine. Et voici qu'on veut affubler nos tendres 20 ans d'oripeaux de haine. Les gros, les grands, si c'est à vous. Écus sonnant et bonne terre, les gros, les grands, si c'est à vous, vous les gardez pour vous. Mais nos 20 ans, ils sont à nous, et c'est notre seul bien sur terre. Mais nos 20 ans, ils sont à nous, nous les gardons pour nous. Pourquoi des clairons, des tambours? Le violon jase au fond des charmilles. Les galons et les brandebourgs, ça fait mieux autour du jupon des filles. Notre cœur dans un cœur aimé reposera mieux qu'au sein de l'histoire. Car nous nous flattons d'estimer une nuit d'amour plus qu'un jour de gloire. Les gros, les grands, c'était à vous. Et bonne terre, les gros, les grands, si c'est à vous, vous les gardez pour vous. Mais nos 20 ans, ils sont à nous, et c'est notre seul bien sur terre. Mais nos 20 ans, ils sont à nous, nous les gardons pour nous. Notre bonheur n'est pas jaloux du bonheur de ceux qui disent je t'aime. Dans un autre patois que nous, nous ne voulons pas troubler leurs poèmes. Et fiers d'épeler à présent dans un livre plein de douces paroles, pour apprendre à verser du sang, nous ne voulons pas aller à l'école. l'amour prend corps, mais il prête une âme au drapeau qui bouge. Alors nous préférons encore le mensonge rose au mensonge rouge. Et sur ce bourgeois impotent, dont le champ fleurit, dont le coffre brille, ne demandez plus nos 20 ans, ils sont promis pour le prochain quadrille. Les gros, les grands, c'est à vous, vécu sonnant et bonne terre. Les gros, les grands, c'est à vous, vous les gardez pour vous, mais nos 20 ans, ils sont à nous. Et c'est notre seul bien sur terre, mais nos 20 ans, ils sont à nous, nous les gardons pour nous.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après l'habituel instant musical, nous revoici donc pour le récit de Éric Vuillard, L'ordre du jour. Hitler a quitté Munich en automobile, le visage fouetté par un vent glacial. Sa Mercedes roule à travers les profondes forêts. Il avait prévu de passer d'abord à Braunau, sa ville natale, puis à Linz, la ville de sa jeunesse, et enfin à Leonding, où reposent ses parents. C'était en somme un joli voyage. Vers 16h, Hitler avait franchi la frontière à Braunau. Il faisait un temps radieux, mais très froid. Son cortège était composé de 24 automobiles et d'une 20aine de camionnettes. Tout le monde est là. La SS, la SA, la police, tous les corps d'armée. On communie avec la foule. On s'arrête un instant devant la maison natale du fourreur, mais pas de temps à perdre. On est déjà si en retard. Les fillettes tendent des bouquets. La foule agite ses petits drapeaux à croix gammée. Tout va bien. En milieu d'après-midi, le cortège a déjà traversé de nombreux villages. Hitler sourit, agite la main. L'exaltation est visible sur sa figure. Il fait le salut national-socialiste à tout bout de champ à de vagues assemblées de paysans ou de jeunes filles. Mais le plus souvent, il se contente de ce geste étrange que Chaplin a si heureusement parodié, le bras plié dans un mouvement désinvolte un peu féminin. Un embouteillage de Panzer. La Blitzkrieg est une simple formule, un mot que la publicité a collé sur le désastre. Le théoricien de cette stratégie agressive s'appelle Guderian. Dans son livre « Achtung Panzer », au titre sec et saisissant, Guderian développa la théorie de la guerre éclair. Bien sûr, il a lu John Frederick Charles Fuller. Il a adoré son mauvais livre sur le yoga. Il a parcouru fiévrement ses prophéties délirantes où il crut découvrir l'affreux mystère du monde. Mais ce sont surtout ses articles sur la mécanisation des armées qui lui ont foutu en l'air des nuits et des nuits de sommeil. Et ça l'a fait cogiter, Guderian. Les bouquins de Fuller, ça lui a plu, cette évocation passionnée d'une guerre héroïque et brutale. Car John Frederick Charles Fuller est passionné, si passionné qu'un peu plus tard, il rejoindra Mosley, déplorant l'indolence des démocraties parlementaires et appelant de ses voeux un régime plus exaltant. C'est ainsi qu'il deviendra membre de la Nordic League, visant à la promotion du nazisme. Le petit concile se réunissait en secret dans quelques chaumières bien anglaises et passait de longues heures à parler des juifs. Mais ses sympathisants n'étaient pas seulement des commerçants de Mayfair. Oh non, il y avait aussi Lady Douglas Hamilton qui aimait les animaux tellement. Car on le sait, toute la misère ont pour chef-lieu l'âme humaine. Il y avait le bon duc de Wellington, Arthur Wellesley, Coqueluche des Salons, ancien d'Eton, ayant bénéficié de toutes les facilités du monde, inexcusable donc, connaisseur de Properce et de Lucain, qui se baladait sans doute au petit jour sifflant du pipeau dans le parc de sa demeure, parmi les bergers de Théocrite, collectionneur d'œuvres d'art, peut-être pas des meilleurs, mais tout de même. Et qui avait pourtant le crâne étroit, la lippe veule, et le regard absent, si bien que s'il était né dans un faubourg de Londres, on n'en aurait sans doute jamais parlé. Hartung Panzer. Ce 10 mars 1938, les blindés ouvraient la parade. À la tête du 16e corps d'armée, Heinz Guderian allait enfin réaliser son rêve. Le premier blindé allemand avait été construit en 1918 à une vingtaine d'exemplaires. C'était une lourde carcasse de ferraille, une boîte de 200 chevaux, une grosse poussette très lente, d'un maniement fastidieux. L'un d'eux, à la fin de la Première Guerre mondiale, affronta en combat singulier un blindé anglais et fut irrémédiablement détruit. Si depuis ce premier baptême le tank avait fait bien des progrès, il en restait beaucoup à faire. Ainsi, le Panzer IV, qui sera un temps la reine des batailles, n'en était encore en ce jour de mars 1938 qu'à ses balbutiements. Produit par Krupp, ce petit char d'assaut était alors un char de combat très médiocre, d'un blindage trop léger, incapable de résister aux obus anti-chars. Son canon ne lui permettait de s'attaquer qu'à des cibles molles. Le Panzer II était encore plus petit, une vraie boîte à sardines. Il était rapide, léger, mais incapable de trouer le blindage d'un char ennemi, tandis qu'il était lui-même vulnérable. Il fut obsolète dès sa sortie d'usine. Il devait d'ailleurs n'être qu'au départ qu'un char d'entraînement. Mais la production prit du retard, la guerre arriva plus vite que prévu et il fit du service actif. Quant au Panzer I, c'était presque une tanquette. Il n'y tenait que deux bons hommes directement assis sur le métal comme des professeurs de yoga. Il était trop fragile et son armement trop faible. Mais il était en revanche bon marché, guère plus cher qu'un tracteur. Le traité de Versailles avait interdit aux Allemands la fabrication de chars, les entreprises allemandes produisirent donc par l'intermédiaire de sociétés écrans à l'étranger. On voit que l'ingénierie financière sert depuis toujours aux manœuvres les plus nocives. Ainsi, en cachette, l'Allemagne s'était constituée, à ce qu'on disait, une prodigieuse machine de guerre. Et c'était justement cette nouvelle armée, cette promesse enfin réalisée au grand jour, que tous les Autrichiens attendaient au bord de la route, ce 12 mars 1938. On devait donc être un peu inquiet, un peu fébrile, sous le ciel radieux. C'est alors qu'un minuscule grain de sable se glissa dans la formidable machine de guerre allemande. Il y eut d'abord une rangée entière de blindés sur le bas-côté. Hitler, dont la Mercedes dut s'écarter, les regarda avec mépris. Puis ce furent d'autres véhicules de l'artillerie lourde, immobiles au milieu de la route. Et on eut beau klaxonner, hurler que le fourreur devait passer, rien à faire. Les chars ramaient dans la colle. C'est sublime, un moteur. Un vrai miracle, si l'on y pense. Un peu de carburant, une étincelle, et hop, la pression augmente, repousse le piston qui entraîne la rotation du vilebrequin, et c'est parti. Mais voilà. Ce n'est simple que sur le papier. Dès que ça tombe en panne, quelle mouscaille, on n'y pige plus rien. Il faut foutre les mains dans un affreux cambouis, dévisser, revisser. Or, ce 12 mars 1938, malgré le grand soleil, il faisait un froid de gueux. Ça n'était donc pas drôle de sortir sa boîte à outils sur le bord de la route. Hitler est hors de lui. Ce qui devait être un jour de gloire, une traversée vive et hypnotique, se transforme en encombrement. Au lieu de la vitesse, la congestion. Au lieu de la vitalité, l'asphyxie. Au lieu de l'élan, le bouchon. Dans les petites villes d'Altheim, de Ried, un peu partout, les jeunes Autrichiens attendent, le visage violacé par le vent. Certains pleurent de froid. À cette époque, à la grande braderie des personnalités, les Françaises veulent Tino Rossi aux Galeries Lafayette et les Américaines swinguer sur les tubes de Benny Goodman. Mais les Autrichiennes s'en foutent bien de Tino Rossi et de Benny Goodman. Elles ont demandé Adolf Hitler. Ainsi, régulièrement, à l'entrée des villages, on entend crier « Le fourreur arrive !» Et puis, comme rien ne vient, on se remet à discuter de choses et d'autres. Car ce n'était pas seulement quelques tanks isolés qui venaient de tomber en panne, ce n'était pas juste un petit blindé par-ci par-là, non, c'était l'immense majorité de la grande armée allemande. Et la route était maintenant entièrement bloquée. Ah mais on dirait un film comique. Un fourreur ivre de colère, des mécanos courant sur la chaussée, des ordres hurlés à la hâte dans la langue râpeuse et fébrile du Troisième Reich. Et puis une armée, lorsqu'elle se rue sur vous, lorsqu'elle défile à 35 à l'heure sous le grand soleil, ça embouche un coin. Mais une armée en panne, c'est le ridicule assuré. Le général se fait passer un de ses savons. Hurlement, injure, Hitler le tient pour responsable de ce fiasco. Il fallut dégager les véhicules lourds, tracter quelques tanks, pousser quelques automobiles afin de laisser passer le fourreur. Il arriva enfin à Linz à la nuit tombée. Pendant ce temps-là, sous une lune glaciale, les troupes allemandes chargèrent à toute vitesse le plus de tanks qu'elles purent sur des plateformes de train. On fit sans doute venir des spécialistes depuis Munich, cheminots et grutiers. Et puis, les trains emportèrent les blindés comme on convoie les équipements d'un cirque. C'est qu'on devait à tout prix être à Vienne pour les cérémonies officielles, le grand spectacle. Ce dut être une scène bizarre, ces silhouettes sinistres, ces trains roulant de nuit comme des corbillards. À travers l'Autriche, leur cargaison d'automitrailleuses et de blindés. Et nous sommes arrivés, pour ce soir, à la fin de nos lectures en liberté que nous retrouverons demain avec la suite du récit de Éric Vuillard, L'Ordre du Jour. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.